Alors, ce shiur est dédié à la Refoua Shlema de Eliaou ben Rzala. Et Yehuda, tu poses ta question, s'il te plaît. Donc, je te donne le micro. Ouais, donc tu peux
dire ouais. Ça. Si une personne, du jour au lendemain, a la chance que Hachem lui donne le trou d'être riche, imaginons un baron yeshiva, du jour au lendemain, il devient riche. Et il a le souci de vouloir être un bon juif et de vouloir accomplir ce que Hachem il veut de lui. Dans la Torah, il y a une conséquence logique. Hachem, s'il le rend riche, il veut que lui, dans ce monde, il fasse des choses. La Torah, je sais qu'à certains endroits, elle parle de personnes riches, pourquoi Hachem, il les a rendus riches, etc. Alors, la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire pour faire en sorte qu'Hachem, il soit content de lui et qu'il fasse en sorte qu'il remplisse bien son rôle et qu'il ne fasse pas de faute aussi.
Chazal sont très clairs là-dessus. Ils disent que l'épreuve de la richesse est bien plus dure que celle de la pauvreté. Contrairement à ce que nous pensons tous, qu'on préfère être riche que d'être pauvre. C'est faux. D'abord, quand quelqu'un est pauvre, il pense à Hachem. C'est comme ça. Quand ça ne va pas, je parle de quelqu'un de croyant, ou même croyant à moitié, quand ça ne va pas, on appelle toujours plus Hachem que quand ça va. Quand ça va, bon, je suis croyant, Hachem très bien, merci, 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 merci mille fois, mais bon, ça ne sera jamais une prière. Par contre, quand ça ne va pas, aïe, 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 c'est normal, c'est normal. Et la Torah averti, le peuple d'Israël va rentrer en terre d'Israël, Shamanta, Kasita, tu vas t'engraisser, tu as déjà une cassita, une couche supérieure encore de graisse, d'accord. Tu auras de l'argent, tu auras de l'or, et tu as commencé à oublier Dieu. Rafael Traim, à la fin de sa vie, a rêvé qu'il devenait riche. Il est mort à l'âge de 90 ans et quelques. Il a jeûné un jour entier. Il a dit deux choses l'une. Ou le rêve, il est vrai, ou il est faux. S'il est vrai, ben, je dois absolument jeûner. Que je devienne riche. S'il est faux, je dois quand même jeûner. Pourquoi Hachem m'envoie à moi, un vieux pépé de mon âge, un cauchemar pareil? Ça, c'est l'optique juive. Bien sûr, on demande, entre pauvreté et richesse, on demande ni ça, ni ça, qu'on ait ce qu'il faut, pas plus. Ezar, Achir, Samarbechako. Qui est celui qui est riche? Celui qui a ce qu'il lui faut. Il est heureux de ce qu'il a. Il est heureux de ce qu'il a. Quand on est riche, on doit rendre compte à Dieu de tous les pauvres qu'on aurait pu nourrir et qu'on n'a pas nourri. De toutes les jeunes filles qui doivent se marier qui n'ont pas d'argent, de tous les... Chaque personne qui est dans le besoin, qui avec mon argent aurait pu se sortir de ses difficultés et je ne l'ai pas fait. Je suis coupable.
Chaque fois qu'on entend que... Imaginons qu'on est riche. Chaque fois qu'on entend que quelqu'un il a un besoin, on devrait se sentir concerné et réagir.
Bien sûr.
Si on est pauvre...
Hein?
Si on dépense tout l'argent qu'on a.
Pas tout. Chazal ont dit qu'on ne peut pas dépenser plus de 20%. Mais ils ont dit Achir Mouflag, celui qui est très riche, aussi plus de 20%. Il y a un riche dans la Gemara, on parle, il s'appelait Nagdimon Ben Gurion. Extrêmement riche. Et la Gemara raconte qu'un jour, je ne sais plus que c'était Rabban Gamliel, je sais plus, il allait, il a vu la fille de Nakhdimon Ben-Gurion qui recherchait des grains qui n'ont pas été digérés dans les crottes de vaches. Peut-être il y a quelques grains qu'elle peut maintenant récolter, laver et manger. Elle lui dit, mais ton père a donné beaucoup de tzedaka. Elle a répondu, oui, mais pas assez. Qu'est-ce qui arrive à ton père qu'il a fait faillite comme ça? Il donnait beaucoup de tzedaka. Pas assez. Qui peut maintenant savoir quel est... C'est ça la porte de mon Melchizedek. S'il y a un pauvre au bout de la ville, et moi j'aurais dû être au courant, je ne me suis pas mis au courant, on m'a mis au courant, je n'ai pas fait attention, où est-ce que je ne donnais pas assez? C'est une super responsabilité. Qui demande à voir ça? Qui demande à avoir ça? Les gens qui disent je veux avoir beaucoup d'argent pour pouvoir donner beaucoup. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Celui qui a besoin d'argent, il recevra de toute façon. Pourquoi tu veux être le canal? À quoi ça sert d'être le canal? C'est une très grande responsabilité. C'est très grave. Pourquoi devoir.
Hachem, il fait bien qu'il y a des riches et des pauvres.
Alors,
quand Hachem envoie la richesse à quelqu'un, hein, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Maintenant, l'épreuve, elle est la fierté, l'orgueil. Et ça, c'est presque impossible de ne pas tomber dedans. Parce que quand tu es riche, on fait du kavod.
On dit que quelqu'un qui veut être un ave, il ne peut pas être un ave s'il n'est pas riche. Parce que le niveau, pour atteindre un niveau d'un ave le plus grand, il faut pouvoir être riche.
Attends, mais même un pauvre, il n'est pas un ave. Oui. Qui est un ave ? Qui est un ave ? Humble. Même un pauvre, il n'est pas humble. Mais il y a le humble, il y a le plus ou moins normal et l'orgueilleux, le super orgueilleux. Maintenant, un qui est à peu près normal, il devient riche, il est presque impossible. Il doit être presque un ange pour tenir le coup, d'accord ? Presque impossible de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Pourquoi ? Parce qu'on lui fait du kavod. Au début, il est mal à l'aise. Mais non. Puis on s'habitue au kavod. On s'habitue très vite. Très vite. Et après, on ne fait pas le kavod. T'es touché. Tu sais bien que non. Mais on te fait. Le Mishnah de Shearim, il en parle tellement. Il dit qu'un des pièges, c'est les gens qui nous entourent. Et quand quelqu'un a de l'argent, il est entouré. Il n'est pas bien entouré. C'est rare que les gens qui... Le Mishnah de Shearim dit que presque tous les gens qui ont des situations de pouvoir ne sont pas bien entourés. Parce que les gens qui ont du pouvoir, les gens qui sont autour, forcément les flattent, leur font du kavod, qui leur ne revient pas. Par exemple, on doit le critiquer maintenant. Tu as quelqu'un, voilà, un riche, la communauté, il fait un acte qui n'est pas bien. Si c'est un pauvre, tu lui dis gentiment. Tu as la communauté, il fait un truc, tu ne vas pas lui dire la même chose. Tu prends des gants et machin, ou des fois tu laisses passer. C'est comme ça. On ne va pas venir le critiquer. Parce qu'on a un peu peur de lui. Il a du pouvoir, il a quelque chose, d'accord. Et puis le pouvoir, c'est un yetzerara. C'est un grand yetzerara, le pouvoir. Comment quelqu'un qui a tout à coup un pouvoir énorme, il va se sentir qu'il n'a rien ? Presque impossible.
Ce serait quoi être bien enterré, bien entouré ?
Quelqu'un qui te dit tous tes défauts, qui n'a pas honte de te les dire, toute la journée.
Imaginons vous, par exemple, Razukhaïla.
Ouais. Ouh là là, bien sûr.
Imaginons que vous deviez riche.
Ouais.
Qu'est-ce que vous feriez pour bien vous entourer ? Non,
j'ai dit
Razukhaïla.
D'accord. Moi, j'ai déjà beaucoup de problèmes en tant que Rav Ronchaya, que les gens font de moi ce que je ne suis pas, d'accord ? Le kavod, c'est une chose à laquelle on s'habitue. Ça fait du bien. On te fait un compliment, ça te touche. Yuda, franchement, t'es un de mes meilleurs avrechim. Même si tu sais que je te raconte des histoires, ça te fait plaisir. C'est tellement le monde du kavod, c'est un monde du mensonge, et il touche.
C'est important de faire des compliments
parce qu'on doit, on ne doit pas penser au lame à bas de son prochain, on doit penser au lame à zé de son prochain. Maintenant, je dois faire du kavod à quelqu'un, il faut lui faire du kavod à quelqu'un, mais lui doit savoir que c'est une erreur. Il faut pas qu'il tombe dans le panneau. Il sache qu'on me fait ça, mais il faut savoir qui je suis vraiment.
Ça nous fait avancer aussi.
Ça nous fait avancer parce qu'on a besoin de ça. Mais ça dépend combien, qui, quoi, comment. Attention, qui, quoi. Il y en a qui sont kavod, ils n'avancent pas. Mais quelqu'un qui grandit au bout d'un moment, il doit comprendre qu'il n'est pas tributaire, sa valeur n'est pas tributaire du regard des autres. C'est une erreur. Une erreur commune dans laquelle nous sommes tous. On a besoin du regard des autres. Mais c'est une erreur. Ma valeur n'est aucunement, en aucune façon tributaire, définie par le regard que les gens ont sur moi. Qu'est-ce qu'ils savent de moi ? Quelle âme j'ai par rapport à... Hachem va nous juger chacun d'après son potentiel d'âme. Des grands potentiels, des petits potentiels, un petit potentiel. Il arrive à un niveau 100, d'accord ? Non, deux personnes arrivent au niveau 50. Un, son niveau maximal, c'est 55. Et un, son niveau maximal, c'est 500. Et tu le regardes de façon égale. Ou encore mieux, un, il arrive à 50. Son potentiel, c'est 55. Un, il arrive à 100. Il est deux fois mieux. Mais non, mon cher ami, lui, il a un potentiel de 500. Donc c'est un nul. C'est comme ça qu'Hachem nous juge, en fonction de nos potentiels. Mais toi, tu sais pas. Tu vois les gens tels qu'ils sont.
Mais comment nous, on sait notre potentiel ?
Qu'est-ce que tu en as à faire, ton potentiel ? Toi, sache une seule chose, qu'Hachem, il t'aime. Il te demande d'avancer. Tu dois avancer le plus possible. Pourquoi tu veux savoir ta note ? Tu as une bonne note. La note que nous devons voir pour nous, elle est exactement celle qui me fait être exactement en porte-à-faux entre la dépression nerveuse ou le super kavod. Si j'ai une très bonne note, ça va, pépère. Mauvaise note, je suis un nul, ce n'est pas la peine que... De toute façon, quoi que je fasse, je suis nul. Le but est d'avancer, on ne connaît jamais notre note. Donc on doit jouer maintenant entre les deux. Je ne suis pas un nul, je ne suis pas parfait. Je suis presque parfait, je peux gagner encore beaucoup. Tu comprends ? C'est comme ça qu'il faut jouer, sur nous-mêmes. Mais véritablement, quelle note on a ? Personne ne sait. Maintenant, le type qui a de l'argent, le type qui a du pouvoir, on lui fait du cavote. Et il tombe dans le panneau, il écoute, il fait attention, il est sensible à ça. Même s'il fait du moussard, beaucoup, 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 il y a un grand danger, grand danger.
Et c'est quoi la limite avec le cavote pour les rabbins alors?
Un rave est obligé de recevoir le cavote qu'on lui fait parce que c'est le cavote de la Torah. Et il doit savoir qu'il est nul. Il y avait un grand admor de la Chassidoute qui s'appelait l'admor de Rosine. Rosine ou Rosine? C'est nul. Rosine ou Rosine? Rosine. Et allait avec des chaussures d'or. Et quand il marchait dans la neige, on voyait des traces de sang. Elle est sans semelle. Extérieurement, il montre l'or. Mais lui, il sent le froid de la neige et ça saigne tellement. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. C'est comme ça qu'il faut être. T'es un nul, t'es un rien, t'es un moins que rien. Il y a une blague. Une fois, il y avait deux admorim qui voyageaient en charrette comme ça en Pologne. Et un dit à l'autre, moi je suis un gournicht. Gournicht, en yiddish, je suis un nul. Et l'autre lui dit, moi je suis un gournicht. Moi je suis un nul de nul. Allez, moi je suis un gournicht. Je suis un nul de nul de nul. Et comme ça, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, le cocher dit, si vous êtes comme ça, alors moi je suis un gournicht. Les deux se regardent. Il commence à prendre pour un gournicht celui-là. D'accord, il commence à se prendre pour quelqu'un qui n'est rien. D'accord. C'est très dur là, Nava. Très dur. C'est une bataille. Je sais que c'est la bataille des grands de Torah. Le Rav du Rav Metzon Abba Shaoul, s'appelle Rabbi Ezra Atiyeh, qui était un des grands de la génération. Il se cachait beaucoup. Un jour, il passe dans la rue avec ses élèves et sur le trottoir d'en face, ils étaient voisins, passe le Rabbi de Gour. L'ancien, le Rav, le Beth Israël, qui était un grand rabbin de Gour. Le Beth Israël, il voit le Rav Israël, il traverse la rue, il lui dit « Shalom alecha, Rabbi Umori. Shalom sur toi, mon Rav et mon maître. Lui, il répond aussi « Shalom, shalom alecha, Rabbi Umori aussi. » Et le Rabbi part, et le Rav Israël dit « Ah, je suis content, j'ai eu la chance de voir le Rabbi de Gour, le Beth Israël. » Alors, il lui dit, Kodara, peut-être c'est lui qui a la chance de vous voir. Eh bien, les gens qui étaient présents ont dit que dans une semaine, le Rav n'a plus voulu parler avec cet élève-là. Du genre, tu m'as détruit. Tu me fais du kavod. Alors, les élèves doivent faire du kavod au Rav. Mais lui doit savoir, c'est pas mon kavod, kavod à Torah. Il faut, il peut pas être trop. Il y a un Rav, il doit être un manique, il doit être un dirigeant, quand il est dirigeant. Quand il est dirigeant, c'était où? Dans quelle ville c'était? Je crois Lélov, je ne suis pas certain. Une ville par là-bas. Le roche, le rave de la ville, c'était le Bar, le Bait Hadash. Quand vous ouvrez le tour, il y a deux grands commentateurs, le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, et le Bar. Ça fait un commentaire sur le tour, extrêmement long, très très grand. Le Bar. Et il allait dans la ville, où il voit deux personnes, une grande barbe comme ça, lumineuses. Elles passent très vite. Ishmael est derrière eux comme ça, mais ils vont très très vite. Tout coup, il voit quatre personnes comme ça, sales, les suivent, passent aussi très très vite. Il dit, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Je suis le rave de la ville, je vous entends de vous arrêter. Il s'arrête. Le rave de la ville, on est obligé de l'obéir. Qui êtes-vous? Et qui sont ces deux personnes-là qui couraient comme ça? Il dit, ces deux personnes sont Eliyahu Hanavi et Elisha, les deux grands prophètes. Et qui vous êtes-vous? Moi, je suis Gehazi, mes trois enfants. Gehazi était le Shamash, le serviteur du prophète Elisha. Et il lui a menti. Il a pris de l'argent. Bon, l'histoire est connue. Le général syrien avait la lèpre. Il est venu voir Elisha. Elisha l'a guéri. Le général lui a dit, je te donne de l'argent, ce que tu veux, j'ai besoin de rien, pars. Gehazi a vu le général partir comme ça, il a couru après, il a dit, oui, Elisha m'a dit, j'ai deux personnes qui viennent d'arriver, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas d'habits, donne un peu d'argent, machin, et il a pris. Elisha vient, tu crois m'avoir comme ça? Tu as été voir maintenant le général, tu as fait un chilou Hachem, et bien que la lèpre que j'ai enlevée maintenant du général, elle vienne sur toi et tes enfants. Ses enfants aussi, c'était dans le coup. Et notre, comme ça dit Gehazi au bar, et nous sommes punis de devoir poursuivre maintenant Elisha et Eliyahu. Mais ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font ici dans notre ville? Ils vont voir le Megaleh HaMukot. Megaleh HaMukot, c'était un grand rabbin il y a 400 ans, qui a écrit un livre, Mégalé Amokot, le Mégalé. Mégalé, dévoileur des profondeurs de la Torah. C'est un livre très profond, très très profond. Ok ? Et pourquoi il vient pas chez moi ? Il dit, parce que toi, tu es rab de la ville. Et à un avis, il ne se dévoile qu'aux personnes qui sont humbles. Attends, moi aussi, tu es humble. Tu es humble. Mais vu que tu es rab de la ville, tu es obligé d'avoir aussi un peu du pouvoir et d'être obligé. C'est marqué que... Tu es obligé c'est marqué Shmit Shebashminit. Un huitième de huitième. Il faut avoir d'orgueil pour diriger aussi la communauté. Le Mégalé Amokot, qui lui est dans son coin, tout seul, il n'a pas besoin de ça. Donc Eliyahu HaNavi, il a déjà avant de se dévoiler, étudier avec lui la Torah. Et toi, tu n'as pas droit à cela. Pourquoi je raconte cela? Donc, un rav, il est obligé d'avoir aussi... Ramon va venir maintenant en Fiat 124. Il est obligé de prendre la belle voiture. Donc, si jamais il commence à aimer l'épidermique de cuir de la voiture, et le calme comme ça, on roule comme ça, ça ne va plus du tout. Pour lui, c'est des bêtises. Et c'est des bêtises, c'est évident. C'est des gens qui sont toutois. Mais un rav un peu moins grand, un peu commence à aimer un peu ça. D'accord? Là, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le président de l'État d'Israël, président spirituel, d'accord? C'est marqué que durant l'hiver et l'été, toujours sous sa table, il y avait tout ce qu'on voulait. À la fin de sa vie, il a levé ses 10 doigts, ou s'il a dit, Dieu, tu es témoin, que je n'ai pas profité de ce monde, même du petit doigt. Qui peut dire aujourd'hui de lui-même pour un repas qu'il n'a pas profité de ce monde? C'est bon un peu, hein? Prends de l'eau, prends un peu de sel, même du pain sans sel. Non, c'est pas bon, je profite de ce monde. Il lève les doigts et dit, tu es témoin que j'ai pas fait de ce monde, même du petit doigt. Ah, pourquoi il y avait tellement? Et le président, il faut que sur sa table, une table qui soit... Bon, c'est pas notre niveau de tout ce que je suis en train de parler. On revient maintenant au type qui est riche. Maintenant, c'est marqué que Hachem envoie la richesse à quelqu'un pour deux raisons. Ou pour le couler, ou pour le rendre très méritant s'il arrive à relever le défi. Et donner la tzedaka comme il faut. Rester humble. Utilise son argent pour le bien. Et c'est vrai que s'il réussit, il a un grand mérite. C'est dire, attention, tu es en train que personne ne demande cela. C'est une épreuve très dure, qu'on ne demande pas. On ne veut pas la pauvreté. Elle est dure aussi. On demande qu'on ait ce qu'il nous faut. Pas plus. Pas moins, pas plus.
Mais non, techniquement, il y a des gens riches dans le monde.
Il y a des gens riches, techniquement.
Alors, c'est quoi la takana? Quelqu'un, il devient riche.
Il ne peut pas dire, je donne tout. Non. Il doit continuer à être riche.
Il a le droit d'enlever l'épreuve qu'il lui a mis Hachem ou l'épreuve ou le truc. Donc, il a un devoir de manger des bonnes choses, d'avoir
Non, je n'ai pas dit ça.
Je demande. Je pas dit.
Il a un devoir d'entretenir sa richesse pour pouvoir pourvoir aux besoins des pauvres, du monde des yeshivotes, de tout ce qu'il a besoin. Il doit être un grand, grand donateur.
C'est quoi les priorités? Dans quelle hiérarchie? Qu'est-ce qu'il doit, par quel point il doit attaquer? Je parle ça parce que je connais des gens comme ça.
Alors, il doit donner la tzedaka comme il faut bien, rester humble. S'il arrive déjà à ça, hein, alors chapeau.
Non, mais ça veut dire quoi, donner la tzedaka comme il faut bien?
Combien il doit donner?
Ouais, comment ça s'organise, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord, la première des choses, je parle de quelqu'un qui était Ben Torah et qui maintenant il veut faire. C'est pas un riche qui veut faire à peu près, il veut faire bien. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Il est très très riche ou juste riche? Très très riche.
Ouais.
Il a des millions, tout ça. Alors il donne beaucoup. Il donne beaucoup.
Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attaquer, il doit donner aux yeshivot. Après, dans quel ordre?
Dans quel ordre? À ça, tout il donne. Il a suffisamment d'argent pour tout.
Quoi,
il donne à tout.
C'est bien quoi, humble alors?
Humble?
Ouais, c'est impossible d'être humble quand on a autant d'argent.
C'est difficile.
C'est pas difficile, c'est impossible.
Presque impossible. Je connais quelques riches qui sont, on peut dire, ils s'en sortent pas mal du tout pour ce qu'ils ont. Il reste simple. Bon, ça fait quand même une villa de 3-4 étages. Mais il reste bien, quoi, normal. C'est des gens de petites conditions qui il a fait une affaire et zoup, il est devenu. Voilà, j'en connais deux, trois et bon prochain.
Parce qu'entre nous, une personne qui deviendrait riche,
oui.
Même si lui, il veut être acide, il a une femme et des enfants.
Oui.
La femme et les enfants, ils ne vont pas accepter de dire
c'est
moi,
très dur,
prendre,
c'est très dur, c'est très dur, c'est très dur. Non, il doit leur dire, c'est un pied, faire du moussard, leur dire, écoutez, c'est parce qu'on est riche qu'on peut se permettre. Les enfants sortent pourris après, gâtés, immariables. C'est très dur. La richesse est un nissayon très difficile. Que Dieu nous en préserve de toutes nos forces.
Ce ne serait pas une bonne idée, quelqu'un qui est riche, d'acheter une grande maison, etc., pour sa femme et ses enfants?
Pas conseillé. On s'habitue après. Et puis un jour, chassé shalom, le cycle, il y a des cycles, hein. On est riche, on est pauvre, c'est pas lui les enfants, hein. Tout, c'est très dur pour eux, très dur. Donc on a commencé à, on était habitué à très grand, à très petit, c'est dépression nerveuse. Si on peut rester, vivre dans, modestement, pas la pauvreté, pas, mais modestement comme il faut, c'est bien, c'est juste aussi, les enfants aussi, ils sortent beaucoup mieux, beaucoup plus sains d'esprit.
Non, ils voient que la personne, le père, hein, il fait beaucoup de recettes,
oui,
avec son argent, ils voient que ça sert à ça.
Les enfants ne doivent pas savoir combien un compte en banque du père, ça n'intéresse personne, d'accord? Un vrai bon riche, comme je dis, personne ne doit savoir, même pas sa femme.
Après le poignard, c'est trahison.
Non, j'avais dit, il faut se contenter de ce qu'on a, et qu'il faut demander ce qu'on a besoin. Mais si le riche, il a besoin d'être riche.
C'est quoi un riche qui a besoin d'être riche? Je comprends pas. Pourquoi il a besoin d'être riche?
Il a besoin de riche. Voilà.
Pourquoi il a pourquoi il a ça?
C'est un échama, il est comme ça. Lui, c'est comme ça.
Non, c'est pas un échama, c'est son gouffre. C'est pas un échama. C'est pas un échama.
Okay,
il est né chez des riches. Voilà. Misken. Ok. Il est né chez des riches. Maintenant, lui, il est habitué à un style de vie. Alors, il doit travailler pour essayer un peu moins. C'est bien. C'est vrai qu'il a des besoins.
On dit que quelqu'un qui passe à la richesse, on va lui donner quand même un esclave.
C'est vrai.
C'est jamais une bracha.
C'est vrai. Tu comprends que la Gemara, elle dit que un riche, c'est marqué, on a vu ça dans la paracha la semaine passée, il faut lui donner, un pauvre, il faut lui donner Marsoro à Charrière Sarlo. Marsoro, le manque qui lui manque. Chazal disent, même un cheval pour aller dessus. Et la Gemara raconte que Hillel un jour a vu un pauvre qui était en fait un riche, qui a fait faillite, et il n'a pas trouvé. Il lui payait toujours un cheval, et il y avait toujours un serviteur qui allait devant, en courant. Il n'a pas trouvé. Alors lui-même, il a relevé sa djellaba, il a couru comme ça, quelques kilomètres devant le riche. Donc ça veut dire que ce riche-là, pour lui, c'était nécessaire d'avoir le cheval et le serviteur qui court devant, pour le président de l'État, Hillel, le grand de la génération, tu vois, Rav Yosef ou le Rav Eliashiv qui court devant. Maintenant, le type, c'est quoi? C'est un pauvre type, c'est un crétin fini. Tu vois pas le grand Torah qui va pour courir, parce qu'il y a un type qui court devant toi pour dire faites place aux riches. C'est un malade, c'est un cas psychiatrique aigu. Ok, ben, il y a besoin. Un psychiatrique aigu, il a besoin de ça, il faut lui donner ça. Mais il faut comprendre qu'on n'a pas à chercher à devenir des cas psychiatriques aigus, c'est tout ce que je dis. Si lui, il a pas le choix, il est reçu comme ça, et sans ça, il ne peut pas vivre, il faut lui le donner. C'est vrai.
Vous avez dit que Dieu peut envoyer de l'argent pour couler quelqu'un aussi.
Oui.
Comment c'est possible?
Parce que c'est ce que la personne veut. On lui dit, viens, prends Alamaba, prends Torah. Non, moi je veux de l'argent. Écoute, ça sert à rien. Tu verras le cours de Ravon Chaya sur l'argent. Tu verras que c'est un piège. Ah non, mais moi j'ai un amour de l'argent beaucoup trop grand. Et puis j'aiderai beaucoup, tu parles, d'accord? Le Yetzer Hara de ne pas donner l'argent, il vient que quand on a l'argent. Quand les gens n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les CRA de ne pas donner. Quand ils reçoivent l'argent, le CRA, il vient. Ils savent pas que le CRA est aussi grand que cela. Donc ils ne savent pas à quel point ils se mettent dans un problème grand. Donc lui, il aime l'argent. Maintenant, pour calmer son Yetzera Tov, qui n'est pas content, lui dit, non, mais je donnerai beaucoup d'argent en Tzedaka. Mais lui, il rêve de quoi? Il rêve de belles bagnoles, il rêve de belles filles, il rêve de belles maisons, il rêve de belles vacances, il rêve de kavod qu'on lui fait, du statut qu'on le regarde, qu'il rentre à la synagogue, il a la place. C'est tout ça qui est... C'est quoi l'argent? L'argent, c'est pas les billets. L'argent, c'est tout ce que j'ai dit. Ça s'appelle ça le gros Yetzerara. Ça s'appelle ça le Satan, d'accord? En gros, c'est ça l'argent. Tu peux... Synonyme. Égal olamazé. Argent égale olamazé. Olamazé, c'est l'erreur, c'est le flop. Donc, des fois, quelqu'un lui dit « Prends Olam Haba ». Il dit « Je veux pas Olam Haba ». Il y en a qui dit « Je veux pas Olam Haba ». Ok, alors tu vois, il a des mitzvot. Non, c'est une ordure. C'est un type pas bien. Et il a quand même quelques mitzvot. Hachem lui donne l'argent pour qu'il laisse Olam Hazé qu'il veut, et après, on n'entend plus parler de lui. Terminé.
Pas avoir Olam Hazé, Olam Haba.
Tout ce qu'on a dans Olam Hazé, sur le compte de Olam Haba. Tout ce qu'on a dans Olam Hazé, c'est sur le compte de Olam Haba.
Si je suis archi-milliardaire, je ne touche pas à ce million. C'est à ce milliard.
Oui.
Ben, je ne touche pas à mon Olam Haba. Je veux pas...
Très bien.
Mais j'ai une obligation de...
Fais comme Rabbi Lanassi.
J'ai une obligation.
T'as l'obligation, t'as tout et tu profites de rien.
j'ai une obligation, vous avez dit, il faut que je garde mon statut.
Oui, 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 tu le donnes, tu donnes l'argent, tu t'en occupes, tu le fais fructifier, tu t'occupes de ton argent. C'est une avdout, c'est un esclavage. Quelqu'un a de l'argent, c'est un esclavage.
Quoi.
Tu sais comment des gens sont devenus fous parce qu'ils ont gagné l'auto. Ils étaient heureux. On gagnait l'auto, deux jours d'euphorie, après les soucis. C'est une vraie malédiction.
Il y a des gens qui sont pauvres, qui donnent de la tzedaka.
Oui.
Parce qu'ils pensent eux à faire une. Qu'on va leur faire mida, kedeged hein. Mida. Je donne ça, j'ai peut-être que je vais recevoir 50.
Oui.
Ils pensent ça en fait. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est devenir riches. Pourquoi ils donnent de la tzedaka?
Je sais pas. Les gens donnent ça pour être riches. Non, il y a des gens qui rêvent d'être riches. C'est une erreur. Une erreur riche, connue, une erreur pourquoi commune, une erreur tout ce que tu veux.
Et pourquoi il y a écrit alors dans la Torah t'aser à l'idée c'est t'achir.
Aser que l'idée c'est t'achir. Oui, il y a ce goût-là.
C'est pas si pour, vrai si la Torah dit hein, ça comme ça.
Mais c'est quoi le riche? C'est pas celui qui a beaucoup d'argent, celui qui est heureux, celui qui se satisfait de ce qu'il a. Il est bien, il n'est pas dans le besoin. Il n'est pas non plus dans l'opulence. Il a ce qu'il faut, ni moins ni plus. Ça, c'est la bracha. La bracha. Il donne son maaser, il finit son mois tranquille. Pourquoi besoin de plus? Pourquoi? À quoi se sert de plus? C'est un esclavage. Tu es obligé de t'en occuper, tu es obligé de donner, tu es obligé de calculer, tu es obligé de regarder le haïnara, la jalousie, le faux kavod. C'est une tannée.
Entre nous, c'est pas nous qu'on décide, c'est Hachem qui envoie.
J'ai compris, mais moi je veux maintenant que tous les pauvres, tout la 99% de la population qui est frustrée parce qu'elle n'est pas riche, ouais, et qui en rêve jour et nuit, il voit des S, il voit des E, il voit tout ce que tu veux, d'accord. Ça va, calmez-vous, c'est pas le but. Vois Hachem, Yudke Bavke, vois ta Neshama, vois le Emet, la vérité, c'est bien plus que tous ces trucs-là. Olamazé, ça paye très peu. C'est des plaisirs courts qui sont dans le flop, dans l'imaginatif, qui amènent beaucoup, beaucoup d'amertume. Ils sont tranquilles, tu crois, les riches? En vacances. Pas en vacances. Et encore, je me demande.
Quelles vacances? Mais vous, si on parle à toi avec vous, s'ils sont pauvres, ils font un gros bidou de toi, ils pensent à l'argent très, très souvent quand ils sont dans leur mara.
Les riches aussi, dans la mara, ils pensent à l'argent aussi. T'en fais pas. Les deux ont leur tête occupée, le pauvre et le riche. La nuance entre le pauvre et le riche, c'est que le pauvre qui a la tête occupée, il est en situation de manque et il demande Hachem, donc il est proche d'Hachem. Et le riche, il n'est pas en situation de manque et de demande d'Hachem. Les deux sont avec leur tête occupée, c'est clair.
C'est-à-dire que les seuls fois on demande, c'est pour l'argent, à la
gage. Non, mais quelqu'un qui... Pauvre, tu peux être pauvre aussi en santé, pauvre en shambait, pauvre en... Pauvreté, c'est une situation de demandeur. Alors, quand tu es pauvre en argent, tu es en situation de demandeur, tu ne sais pas comment finir ton mois. Ben, tu es comme ça. C'est clair que tu es... Donc, tu es proche de la chaîne.
Pourtant, que j'ai compris, il m'a envoyé ce qu'il me devait, enfin, ce dont j'avais besoin.
Peut-être qu'Hachem m'a fait une prière. Et il veut ce regard. Et grâce à ce regard, il t'envoie encore plus.
Une prière pour l'argent,
c'est vraiment pas crédible. Pour finir le mois, pourquoi pas? Je comprends pas. Pour tout. On prie Hachem pour tout. Tout. Au moins du bitachon. Quelqu'un est venu voir une fois le Rav de Brisk. Je lui ai dit, je vous paye pour des shiva maintenant, toute l'année. Il dit non. Vous avez besoin d'argent? Oui. Vous n'avez pas le quoi finir le mois? Non. Alors pourquoi pour toute l'année? Je ne veux pas perdre la grande mitzvah de bitachon. Bitachon, c'est une mitzvah très belle. C'est sans prier, tu es en manque, mais tu as confiance en Hachem. Tu as un regard vers Hachem. Hachem va m'aider. Et c'est une mitzvah tellement belle, tellement grande. C'est une histoire d'amour. Pourquoi la perdre?
C'est pas forcément dans l'argent. C'est peut-être un manque de shalom bayit, un manque de...
Dans tout, ouais, tout.
Alors même si...
Bon, on parle d'argent maintenant. On parle d'argent. Donc là, quelqu'un lui donne l'argent, il dit non. Je veux la grande mitzvah d'être en situation de... C'est un flirt avec Hachem. On peut dire un flirt, ça se dit. D'accord? Une histoire d'amour. Chira chérim. J'ai besoin. Hachem va me donner. Il ne me donne pas. Dernière seconde, tout coup, ça arrive. Et pas par où je croyais. Et je vois la main de Dieu. C'est beau. C'est beau. C'est bien plus beau. Un an, je suis tranquille. Hachem, ton côté. Plus besoin de toi. Merci.
Mais c'est qui l'a envoyé, cette personne qui donne l'annonce?
Tu connais la blague. Le type qui cherche une place de taxi à Paris. D'accord? Hachem. Fait que je trouve une place. Oui, vous une place. Ah, c'est bon, Hachem, j'ai trouvé, pas besoin de m'aider. Il a trouvé tout seul.
Mais cette personne qui lui a amené un an, c'est Hachem qui l'a envoyé. Peut-être qu'il l'a envoyé parce qu'il lui a demandé.
Alors, le risque est suffisamment fin pour ne pas tomber dans le piège.
Ah, c'est...
Il dit, moi, je veux l'histoire d'amour avec Hachem. Je veux pas. Même c'est Hachem qui a envoyé, c'est clair. Mais c'est une épreuve qu'Hachem m'a envoyé. Ouais, il dit, je veux pas.
Parce que des fois, Hachem, il envoie, et c'est pas une épreuve. Il envoie parce qu'on lui a demandé, qu'on a besoin. Et on a confiance qu'il va nous envoyer, il nous envoie pour l'année.
Tu vois qu'il a compris très bien que non. Hachem qui m'envoie pour l'année, il peut aussi m'envoyer tous les mois comme il faut. Pourquoi il m'envoie à l'année? Pourquoi j'aurais pas maintenant cette mitzvah d'amour, d'histoire d'amour avec Hachem? Moi, je veux l'histoire d'amour. Qu'on appelle ce film-là Love Story. Love Story joue avec Hachem. Maintenant, si Hachem m'envoie toute l'année, il a fermé l'écran, plus de cinéma, plus de films, plus d'histoire d'amour. Dommage. C'était une belle histoire, la vraie histoire d'amour. Hachem peut faire que l'histoire d'amour continue.
Mais les riches, Hachem, il veut les rapprocher aussi.
Bien sûr.
Donc, c'est, il n'en veut pas du mal. Donc, eux,
à part ceux à qui il veut du mal. Attention, j'ai dit, les ordures, le type qui est loin d'Hachem.
On parle des gens sadiques, là. Des gens bien.
Ok, oui.
Donc, il n'en veut pas du mal. Il leur voit quelque chose parce qu'ils ont besoin.
Hachem a vu que ce type-là, c'est un gros calibre.
Ouais.
Et il a une épreuve dure dans sa vie. Quelle épreuve dure, ce sera la richesse. Dieu nous en préserve.
Mais même les pourrir, c'est ces créatures. On a bien vu que quand ils étaient quand ils ont ouvert la mer en deux, ils voulaient chanter la Shira et ils ont dit qu'on peut chanter la Shira alors que mes créatures, ils vont.
C'est marqué à la fin de Vaetranan, l'avant-dernier verset. Chapitre 7. Verset 9 et 10. Reconnais donc l'Éternel ton Dieu. Lui seul est Dieu, un Dieu véridique, fidèle au pacte de bienveillance pour ceux qui l'aiment et obéissent à ses lois jusqu'à la millième génération. Ceux qui aiment Hachem, Hachem lui donne pour mi-génération. Il leur donne pour mi-génération. Mais, qui punit ses ennemis directement en les faisant périr et n'ajourne point à l'égard de son contenteur le paiement qui lui est dû. Et n'ajourne point à l'égard de son contenteur le paiement qui est dû. C'est le français trop calé pour moi, contenteur. Il ne tardera pas à le haïr, sur sa face il le payera. Il ne tarde pas à le payer, il ne tarde pas à le haïr, sur sa face il le paye. C'est-à-dire, l'ordure, magouilleur, menteur, trompe sa femme, trompe ses clients, trompe tout le monde, trompe ses enfants. Une ordure. Il a l'argent. Comment ça se fait? Il a des mitzvot. De temps en temps, il donne un petit billet à un rabbin. Quand il était petit, il a aidé une grand-mère à traverser la rue. Il met à Kippour, il va à la synagogue. Il fait des choses. Il a quelques petites choses. Chaque mitzvot que tu fais, ça donne au Lamaba, éternité. On lui dit, tu veux au Lamaba? Lui, non, moi je veux au Lamazé. Je crois pas en Dieu. Moi, je vais m'éclater dans ce monde. Bon, t'es quand même un peu au Lamaba. Il dit, je veux l'amazé. Bon, alors on lui dit, j'adore, prends l'amazé. Mais, par rapport au mitzvot que tu as fait, qui donne l'éternité, au Lamazé que tu dois recevoir, il doit être grand. Aussi grand que l'éternité, on ne pourra pas donner parce que c'est au Lamazé qui veut. Mais on lui donne le mérite de ses mitzvot dans ce monde. Comme lui demande. Et quand il meurt, qu'on fait flop, on sort du flop. Eh bon, cher ami, c'est fini au Lamazé, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est l'éternité. Qu'est-ce que t'as? Rien. Dégage. Dis, mais quoi? On t'a payé, mon cher ami. Ah, j'ai plus rien? T'as rien, t'as tout mangé. Il ne me reste plus rien. Club Med, BMW, cinéma, les filles, machin, en boîte, caviar, tout ça. Mais il ne me reste plus rien de ça. C'est mort. T'as voulu la mort? Bah, t'es mort.
Pourquoi un bon juif, il pourrait pas avoir le Olam Hazé avec l'argent et le Olam Haba?
La question, c'est combien d'argent?
Voilà.
Si il a un petit Olam Hazé, ce qui est nécessaire, on ne demande pas que tu sois pauvre, on ne demande pas que tu sois malade, on ne demande pas que tu souffres, on demande que tu sois normal. Normal, ce qui est nécessaire. Et tout le reste, c'est pour Olam Haba, ça c'est le top niveau. Voilà. Plus que nécessaire, ça devient superflu. Superflu, tu prends déjà de ton Olam Haba. Bah, ou Radonna, il va m'en va, mais...